Interview. 2.
Il s'agit donc de la 2e partita de Jean-Sébastien Bach, l'allemande. Ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Catherine, bonjour.
Bonjour.
Et de Virgile, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous annoncer le Goût du Lac qui va se tenir sur 2 journées, une à Cré le 13 mai et l'autre à Saillant le 14 mai. Et pour vous, il s'agit de partager de la musique classique, ou du moins son goût pour la musique classique, et en parallèle, du goût pour le palais également. Et donc, comment cette idée vous est venue, d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première année, et peut-être parler avant tout de cette association Le Goût du Lac.
Oui, absolument. C'est la 5e édition cette année du Goût du Lac. Donc on retourne une fois de plus sur la place de l'église à Saillant, à la sortie du marché. L'idée étant de mettre la musique classique véritablement dans la rue, accessible à tous et à toutes, de montrer que cette musique n'est pas uniquement destinée aux gens qui la connaissent, mais bien au contraire, elle s'adresse aussi bien aux amateurs qu'aux néophytes, aux enfants, aux personnes âgées. Tout le monde est les bienvenus.
Et autour de vous, Catherine et Virgile, beaucoup de monde.
Oui, alors ça réunit une trentaine de musiciens, amateurs ou professionnels, qui viennent jouer de la musique classique. On retrouve des instruments très classiques comme le piano, le violon, le violoncelle, aussi parfois des instruments plus insolites. On a eu la viole de gambe, de la harpe. Voilà, il y a vraiment. C'est une scène ouverte, donc vient qui veut.
Catherine, pareil, votre implication au sein de Le Goût du Lac était présente dès son origine.
Oui, j'ai commencé déjà par être invitée par Yona et Virgile à jouer dans cet événement, et c'était tellement joyeux, c'était tellement génial finalement de faire ça, de jouer dans la rue et de découvrir ce que ça fait dans l'espace public, ce que ça fait en nous, ce que ça crée entre nous, que voilà, je suis devenue inconditionnelle du Goût du Lac. Et j'ai du coup eu envie aussi de m'impliquer plus.
Alors sur le site internet, on peut découvrir une présentation aussi de ce qu'on va découvrir sur ces 2 journées, mais vous expliquez aussi cette démarche de ce partage de musique classique à l'adresse de tous, un mouvement qui est parti en 2006, semble-t-il, depuis San Francisco.
Oui, alors absolument, il s'agit d'un mouvement qui s'appelle Classical Revolution. Et c'est des jeunes gens de San Francisco qui ont lancé ce mouvement, un mouvement qui se passe essentiellement à la terrasse d'un café. Donc, ça se passe le matin et les gens commandent des boissons. L'ambiance du bar continue pendant que tout le monde sort des instruments et ça se met à déchiffrer, à répéter, à improviser même autour de la musique classique. Donc, dans des formes qui sont très, très décontractées et les gens rentrent, sortent et discutent. Ça nous a donné l'envie de recréer ce phénomène, de montrer que la musique n'est pas un endroit où il faut absolument se taire. Évidemment, il y a un respect de l'écoute qui se fait naturellement dans l'espace public, mais c'est pour ça qu'on associe également des choses à grignoter, des choses à boire, pour que les gens puissent en même temps partager un verre, manger un morceau et entendre de la musique.
Vous présentez ça comme un festival insolite de musique classique. Que révèle ce mot insolite ?
C'est vraiment une adresse d'invitation à l'égard de tous les gens qui, quand ils voient un festival de musique classique, se sentent d'emblée non invités, parce que c'est une musique qui a ses codes, qui a ses habitués, peut-on dire. Là, cette fois-ci, on invite vraiment, véritablement tout le monde, des gens qui sont aussi surpris à la sortie du marché de trouver un piano à queue sur la place publique. C'est vraiment une manière de décloisonner. Voilà, c'était vraiment l'idée de décloisonner, d'ouvrir les portes de cette musique classique pour inviter les curieux, les curieuses, les enfants à venir l'écouter.
Samedi 13 mai à Cray, ça sera d'ailleurs au cinéma L'Eden, il y aura un ciné-goûter musical à partir de 15h. Donc ça sera une séance de cinéma dans le même temps.
Voilà, à l'adresse des plus petits, donc ça invite particulièrement les 3-7 ans à venir découvrir un film qui s'appelle Le Criquet. Donc c'est un film qui se tourne autour de la musique classique, évidemment. Et là, voilà, je ne dévoilerai pas toute l'histoire, mais ce criquet nous propose d'entendre de jolies notes.
Et autour de ce concert, il y aura à 16h30 une concert-férence. On imagine qu'on mêle la musique sur le vif et un discours qui parlera de la symétrie des notes et beauté de la musique.
Absolument, on a la chance cette année d'accueillir le chercheur en musique Emmanuel Amiot, qui est également pianiste et mathématicien, et donc qui va venir nous expliquer avec une certaine vulgarisation des mathématiques, bien sûr, comment l'imbrication de la musique et des mathématiques a toujours existé.
Voilà, Jean-Sébastien Bach, je crois que c'était le chiffre 52, hein, le nombre 52, qui était sa base d'inspiration.
Alors voyez, vous m'apprenez déjà quelque chose.
J'ai appris ça sur un festival de musique baroque. Mm-hmm. Et ensuite, Catherine, vous-même, êtes bonne en mathématiques ?
Pas vraiment. C'est parce que, effectivement, quand ce n'était pas appliqué, j'avais pas cette notion de vivante, que je retrouve complètement dans Bach, effectivement, une symétrie qui est plus que de la mathématique. C'est vraiment une architecture presque de l'espace, du son, quelque chose qui est éminemment structurant et qui, pour moi, peut-être que ça peut rappeler ce que la logique des mathématiques, peut-être, dans cette sorte de logique implacable, de structure, mais qui est fait émaner de la vie, du vivant, de la souplesse et de la joie, finalement. Donc peut-être que c'est ça, les mathématiques, finalement, en action.
Alors, cette conférence qui lie mathématiques et musique, pour vous, quelle est cette motivation de proposer ce type de...
C'est véritablement une curiosité intellectuelle de comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment à l'adresse de tous, à partir de, sans doute... 12-15 ans, j'imagine, c'est un âge minimum pour y assister, pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Mais c'est vraiment comprendre, au-delà de cette idée qu'on a tous, qui est assez commune, que la symétrie de Jean-Sébastien Bach propose cette architecture. C'est évidemment vrai. Je crois que Emmanuel Amiot va nous raconter des choses qui sont bien plus complexes. Comment on peut retrouver notamment le nombre d'or dans la musique, comment on peut retrouver le théorème de Thalès dans la musique. Voilà, il y a plein de choses qui nous parlent à tous, qui avons essuyé les bancs du collège en mathématiques et qu'on va retrouver appliquées à la musique auprès de ce pianiste qui jouera en même temps que la conférence.
Voilà, Pythagore est également cité. Et justement, vous parlez des jeunes. Pour vous, quel est l'attrait de la musique classique pour les jeunes d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il se maintient ou alors il faut un peu les chercher ?
Alors, je crois que non seulement il se maintient, mais on découvre qu'il y a un véritable engouement, notamment grâce à l'essor de la musique de film, qui propose aux jeunes gens des musiques qu'ils connaissent par cœur et qu'ils ont envie de rejouer. Fréquemment, quand on rencontre des gens plus jeunes, ils nous demandent si on sait jouer Pirates des Caraïbes ou ce genre de choses. Et c'est un véritable plaisir que d'aller vers la musique classique sur ce terrain commun. Et ensuite d'ouvrir cette boîte de Pandore et de découvrir que après voilà la musique, les musiques de John Williams ou les musiques de films très célèbres, il y a également des grands compositeurs qui vont peut-être découvrir et aimer. Et c'est évidemment notre souhait le plus cher.
Catherine, vous donc êtes musicienne. Oui. De quel instrument jouez-vous d'ailleurs ?
Je joue de l'accordéon et du piano principalement. Et j'enseigne aussi le piano à Die. Et voilà, pour moi, la musique classique est vraiment finalement venue sur le tard, après avoir beaucoup joué de musique traditionnelle. C'était après une formation classique, c'était vraiment s'évader du classique qui était ma première préoccupation. Et finalement, maintenant, y revenir en comprenant, voilà, en embrassant toute la musique traditionnelle que j'ai pu traverser, que j'ai pu jouer, et de lui donner un aspect vivant, corporel, enfin, incarné, c'est vraiment, voilà, ça, pour moi, ça fait partie des joies les plus importantes, enfin aussi des défis de ce qui comptait pour moi.
Donc, à Cré, ce 13 mai, au cinéma L'Éden, il y aura, comme vous l'indiquez, un peu cette rencontre de personnes musiciennes ou non, mélomanes au moins, et qui pourront découvrir, peut-être de s'impliquer même dans ce moment musical.
Tout à fait. C'est vraiment un moment de découverte et de partage. Il y aura 7 séances très jeune public qui s'adressent plutôt aux 3-7 ans. Il y aura ensuite un intermède dont on n'a pas encore parlé, qui se déroulera au sein du cinéma, pardon, l'Éden à Cré. Durant cet intermède, plusieurs musiciens joueront de la musique classique live, pendant que les plus gourmands pourront déguster quelques crêpes ou siroter un jus de pomme. Voilà, ça va être un intermède sur lequel on compte énormément pour montrer que cette musique classique, elle peut aussi exister dans des endroits de fêtes, de bruit, de moments comme ça, vraiment très insolites. Et ensuite, eh bien évidemment, place à la concertférence d'Emmanuel Amiot, qu'on a hâte d'écouter.
Et puis, on va peut-être vous écouter une deuxième fois. Et donc, vous proposer un...
Eh bien, je vais vous interpréter un morceau qui fait partie du répertoire de la musique classique, mais dans une écriture toute contemporaine, puisque c'est Yann Tiersen qui a écrit ce morceau, ça s'appelle « Sur le fil ». C'est aussi un morceau pour violon seul, qui a été, je crois, un petit bijou du violon.
Donc, un morceau qui a été retranscrit pour violon ?
Qui a été composé pour violon. Yann Tiersen est également violoniste. Il a vraiment écrit ce morceau pour le violon. Et d'ailleurs, il a décliné tous les attributs du violon en 3 parties. Vous verrez, c'est un morceau qui commence avec une partie lente et grave. Et ensuite, les choses se complexifient dans une rythmique tout à fait propre au jeu de l'archet.
Eh bien, on se retrouve après. Thank you. Nous passons ensuite le dimanche 14 mai à Saillant. Et là, ça sera sur le parvis de l'église et la grande rue que seront à découvrir ces animations avec une scène ouverte de musique classique qui se déroulera donc au bas de cet édifice.
Absolument. Oui, oui. À partir de 10h le matin, les musiciens sont invités à venir s'emparer de la scène ouverte. Donc, il y aura un piano quart de queue posé devant l'église. Ça, c'est toujours important pour nous aussi d'avoir cet objet dans la rue. C'est un objet qui est extrêmement sacré, le piano. Et là, on le met dehors, on ose le mettre dehors et viennent jouer tous les pianistes qui ont envie, les chanteurs, chanteuses qui souhaitent, par le chant lyrique, nous faire entendre des mélodies, les cordes, les vents, tout. On aura sans doute des surprises, parce qu'il y a sans doute des musiciens qui vont venir, on ne les connaît pas, et on leur proposera de jouer ce qu'ils veulent, seuls ou accompagnés. On aura aussi ce qu'on appelle un tutti. C'est vraiment un moment où tous les musiciens sont invités à jouer ensemble une partition suffisamment simple pour qu'elle puisse être déchiffrée, ça veut dire pour qu'elle puisse être découverte à l'instant même. Et donc, cette année, notre tutti sera consacré à une œuvre de Robert Schumann qu'on sera heureux de faire entendre à tous les gens qui seront présents.
Quand vous organisez ces rencontres, vous ne savez pas forcément le nombre de personnes qui viendront se joindre. C'est un peu la surprise.
C'est un peu la surprise, effectivement. Il y a toujours une base de musiciens qui reviennent chaque année et qui aiment beaucoup se joindre à nous. Mais effectivement, cette surprise, elle fait partie du jeu. C'est jamais une surprise dangereuse, si j'ose dire. C'est toujours une surprise agréable que de découvrir qui viendra cette année, qui ensuite deviendra peut-être un compagnon, un partenaire de musique avec qui on aura plaisir à répéter durant l'hiver, à découvrir de nouveaux morceaux pour préparer aussi l'édition suivante, parce que c'est aussi des éditions qui se préparent d'une année sur l'autre. J'attire l'attention sur un fait qui me paraît très important, c'est que l'émotion de la musique ne provient pas du niveau musical. Beaucoup de musiciens auraient peut-être tendance à croire qu'ils n'ont pas, entre guillemets, le niveau pour venir jouer devant un public dehors. Et je pense tout à fait autrement. Je pense que l'émotion de la musique vient véritablement de l'intention qu'on lui donne. Alors j'invite véritablement les musiciens qui souhaitent venir jouer à oser et à venir se joindre à nous.
À ce moment-là, vous, par l'expérience, vous vous êtes retrouvé parfois à combien de personnes jouer ?
Il me semble que sur les dernières éditions, on avait des tutti qui pouvaient monter à 35 musiciens. Ouais, c'est très agréable de sentir cette masse musicale. D'ailleurs, la dernière édition du Goût du Lac qui a eu lieu à Die réunissait tous ces musiciens autour d'un extrait du Requiem de Mozart. Et c'était un moment particulièrement émouvant.
Par rapport à un morceau, une composition, il y a une orchestration avec une spécificité d'instrument. Est-ce que il y a naturellement une propension justement à avoir ce type d'orchestre, ou alors il faut faire appel à des cordes ou à des cuivres pour en rajouter ou peut-être en enlever?
Alors on peut pas dire que tout est possible, mais malgré tout, un bon arrangeur peut faire des miracles. C'est-à-dire que la partition originale est écrite effectivement dans une indication de timbre, à savoir que le compositeur aura choisi, prenons l'exemple d'un orchestre de musique de chambre, avec des cordes et un piano, mais il est tout à fait possible d'arranger cette partition, c'est-à-dire de proposer une autre forme d'instrumentation et donc d'inviter, pourquoi pas, des cuivres, des percussions. Alors c'est comme une traduction un peu particulière de ce morceau, et ça sera évidemment pas la même musique, puisqu'il y a une véritable déclinaison, mais ça donne parfois des choses très intéressantes.
Catherine, la musique, pour vous, c'est une passion ou une profession même ?
C'est juste vital. Voilà. J'en ai fait ma profession pendant une vingtaine d'années. Et puis, ça n'a pas tellement de sens, en fait, que ça soit une profession ou pas. Enfin, bien sûr, ça compte pour eux. Mais c'est l'axe de ma vie. Voilà.
Et l'enseignement, la transmission aussi jeu,
voilà,
ça fait, c'est quand même un intérêt pour vous.
Complètement, bien sûr. Donc du coup, autant jouer que faire jouer des, voilà, des enfants ou transmettre la musique, là c'est vraiment une passion. Donc qui est aussi un métier, mais qui se nourrit constamment de la scène ou des relations, des rencontres, des répétitions, continuer à apprendre encore, toujours.
Voilà. Virgile, pareil, vous êtes à transmettre aussi le savoir musical.
Alors c'est une passion qui m'est arrivée sur le tard, puisque l'an dernier, dans le cadre du Goudula, on a invité la luthière de Cray, Elsa Vidon, qui travaille à l'atelier Michon, à venir véritablement montrer son travail de lutherie. Le luthier donc, qui est facteur d'instruments, qui entretient et qui construit. Et donc elle a pris plaisir avec nous une demi-journée à montrer qu'est-ce qu'il y a derrière un violon, un alto, un violoncelle. Et elle avait aussi tendu une main à tous les gens qui souhaitaient avoir un avis sur l'état de l'instrument qui est dans leur grenier, puisque beaucoup de gens ont effectivement un violon, un alto, un violoncelle au grenier. Et à l'issue de cette journée, j'ai lancé un appel, j'ai dit voilà, toutes celles et ceux qui sont venus pour réparer cet instrument, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez le jouer, je veux bien pour la première fois de ma vie ouvrir une classe d'enseignement du violon pour des adultes débutants. Et cinq personnes ont pris cette invitation au sérieux, et ça fait maintenant un an qu'on se réunit une fois par semaine et qu'on a plaisir à découvrir le violon, à improviser, à jouer tant de choses. En déjouant le cliché du violon, le violon est réputé pour être un instrument inabordable, très difficile, encore plus à l'âge adulte. Eh bien, l'expérience qu'on vient de vivre ensemble pendant une année démontre le contraire, puisque on est tous ravis de pouvoir jouer et improviser sur cet instrument.
À 16h, il y aura aussi un concert de l'École de musique. Ça se déroulera place de la Darèze. Alors, cette place, où se situe-t-elle ?
C'est une petite place carrée qui est juste derrière le centre du village. Donc, si vous voyez le centre du village avec le café des sports et le bar tabac qui lui font face, eh bien, juste en retrait de ces commerces, derrière le nouveau bar à vin qui s'appelle le 14 degré 5, on trouve la place de la Darèze. C'est une très belle petite place qui a l'avantage de proposer une très belle acoustique.
Cette école de musique, elle est municipale ou c'est la vôtre ?
Alors, ce n'est pas la mienne, c'est une association, donc elle reçoit des subventions de la mairie, mais elle n'est pas partie d'une proposition municipale, c'est véritablement une association qui s'appelle Sisayanson. C'est une école de musique qui propose, sous l'égide de Julien Maire, qui en est son directeur, des cours de piano, de batterie, d'accordéon et d'éveil musical, et peut-être de violon aussi.
Autour des musiciens, on peut peut-être découvrir d'autres moments dans l'organisation ou des choses qui pourraient s'amener d'elles-mêmes.
Alors absolument. Ce qu'il y a, c'est que on se situe comme dans la partie très décontractée des festivals. Donc s'il y a une proposition improvisée, a priori, on est absolument partant. Si des musiciens souhaitent déambuler en jouant, si des musiciens souhaitent surprendre, faire un happening, y a tout ce qui peut faire vivre la musique dans le village ce jour-là est évidemment le bienvenu. On a hâte de voir les propositions que nous réserverons les musiciens cette année.
Voilà. Et ce sera ce week-end, donc samedi et dimanche. Un moment pour tous de pouvoir venir à ces rencontres. Des instrumentistes ont besoin parfois d'une réparation. Est-ce qu'il y a suffisamment de professionnels qui puissent prêter attention à vos instruments ?
Alors absolument, on a la chance dans la vallée de la Drôme d'avoir beaucoup de professionnels de la lutherie. Je parle de ma boutique puisque je suis violoniste. Il y a des luthiers à différents endroits. Donc je l'ai mentionné précédemment, Elsa Vidon a créé avec l'atelier Michon. Il y a un grand luthier de la lutherie baroque qui s'appelle Charles Michaud, qui est basé à Sceaux. Il y avait une luthière basée à Féline. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais en tout cas, il y a vraiment un foyer de luthiers. Mais la raison est simple, c'est des gens qui aiment le travail du bois et qui se sentent libres aujourd'hui de faire leur métier loin des villes. Et donc de construire, de fabriquer, de réparer des instruments dans un écrin de verdure. Alors on a évidemment cette chance de pouvoir les côtoyer.
Vous vous situez amplement sur la musique classique et vous amenez aussi la notion de musique contemporaine, notamment avec les musiques de bandes originales de films. Est-ce que pour vous, c'est une question que j'ai déjà posée à d'autres musiciens, la musique de film est-elle aussi une continuité de ce qu'on peut dire de la musique classique?
Alors,
ou c'est un domaine autre?
Non, je peux répondre à cette question aussi en tant que compositeur de musique de film, puisque c'est ma profession. Je pense qu'il y a une grande richesse dans la musique de film, dans un spectre qui est très large. Dans tous les styles, on peut revisiter les époques et inventer celle qui est la nôtre, évidemment. Donc je pense qu'il y a évidemment une continuité, qu'il y a vraiment autant de types de musique de film qu'il y a de films sur Terre. Donc vraiment, j'y vois une grande liberté.
On peut vous demander quelques musiques que vous avez écrites pour certains films?
Alors absolument, oui, je travaille beaucoup pour le documentaire de création. Donc, par exemple, la dernière musique que j'ai signée, c'est un documentaire sur le dessinateur Claude Ponty qui édite des livres pour la jeunesse. Un film qui a été diffusé sur France 3 qui s'appelle Claude Ponty, l'art de l'enfance, un film de Thierry Kubler. J'ai également signé la partition d'un podcast coécrit avec Lorraine Nina Magneux et Amélie Nothomb. Sur la mythologie, donc la mythologie racontée par Amélie Nothomb. C'était une très belle aventure qui m'a amené à composer pour le Quatuor à cordes et j'ai eu la chance d'enregistrer le Quatuor de Bussy pour ce projet.
Et avant de nous quitter, peut-être présenter le troisième morceau qui va finir cette émission.
Absolument, et bien on va conclure, si vous le voulez, cette émission avec l'adagio de la première sonate de Jean-Sébastien Bach.
Jean-Sébastien Bach, c'est un compositeur universel dans sa sensibilité, mais aussi dans le temps.
Je pense qu'effectivement, on peut vraiment parler d'un compositeur universel. C'est un compositeur qui, je pense, peut toucher toute personne de toute culture. Ça paraît très très prétentieux de dire ça, mais je trouve que sa musique est tellement fondamentale qu'elle me paraît raconter le monde d'une manière tout à fait remarquable.
Virgile et Catherine, en tout cas, je vous remercie d'être venus sur Erdibois et nous allons nous quitter sur ces terres de Jean-Sébastien Bach et je vous souhaite une bonne soirée. Avant de nous quitter, je peux rappeler que vous avez un site internet qui s'appelle legoudula.com. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Merci. Au revoir.